présentation de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie d'être à l'écoute de notre programme qui sera comme chaque samedi axé sur l'actualité culturelle et littéraire ainsi que sur la découverte de la langue tchèque. Dans l'émission culturelle de cette semaine, rencontre avec Rosalie Kohoutová, une toute jeune documentariste tchèque qui partage sa vie entre Prague et Paris. À 26 ans à peine, elle a déjà à son actif un bon nombre de films, parmi lesquels Roma Boys sur le Sokol de Paris ou sur trois générations de Tchèques en France. Anna Kubišta l'a rencontrée et vous propose aujourd'hui la première partie de leur entretien.
Culture sans frontières.
Rosalie Kohoutová, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, voilà, cinéaste alors de films documentaires. Vous avez fait des études de, alors je ne sais pas trop comment on dit en français, de romistique, c'est plutôt des études de culture rome.
Oui, voilà, voilà, je pense ça, des études de culture rome, oui, voilà. Je dirais ça. Oui.
Donc à l'université Charles, à Prague, et puis alors vous avez également fait des études de films documentaires à la FAMU. La FAMU, c'est un petit peu l'équivalent, disons, de la FEMIS pour les Français qui peuvent nous écouter. C'est l'école de cinéma la plus réputée en République tchèque.
C'est la seule école nationale de film.
Alors, vous avez réussi à combiner finalement, d'une certaine façon, ces deux types d'études, à la fois les études de culture rome et ces études de cinéma de manière plutôt intéressante, puisque un des films que vous avez réalisé, pour lequel vous avez eu d'ailleurs des prix, notamment le prix du Fresh Film Fest, qui est le festival du film étudiant. Vous avez eu le prix du meilleur film. C'est un film qui s'appelle Roma Boys, une histoire d'amour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement de ce film très touchant, justement, qui met en scène alors David Tischer, qui est une figure assez importante de la communauté rome, de la communauté culturelle rome en République tchèque.
Alors oui, vous avez présenté David Tischer, qui est un ami de moi. On s'est croisés quand on a étudié la culture, la langue rome ensemble. Ensuite, on est devenus amis et on a réalisé plusieurs projets ensemble pour la télévision tchèque. Et c'était comment notre petite coopération a commencé. Une fois, il m'avait dit qu'il était homosexuel et que ça pose... on peut dire vraiment un problème dans la communauté. Alors on a parlé plus en plus, on a toujours voulu de faire quelque chose autour de ce projet-là. Et j'ai voulu toujours utiliser ses idées, sa créativité, ça veut dire son scénario. Et c'est en fait maintenant, je parle de la forme de film qui
est très particulière. Hein. Voilà, c'est une forme de film dans le film, en fait.
Voilà, voilà. J'aime beaucoup mélanger des formes de la fiction et formes du film documentaire, on peut dire. Et en fait, j'ai pris son propre scénario. Du coup, en fait, j'ai fait un film documentaire. Ça veut dire, mais quand le scénario était assez autobiographique, ça veut dire, en vrai, on a vraiment tourné quelque chose qui était la réalité, le film documentaire.
Alors, en même temps, c'est assez... Il y a des scènes assez piquantes, enfin, assez rigolotes, finalement, parce que, en fait, vous faites jouer... Ça doit être des vrais personnages, je suppose, qui interviennent, d'une certaine façon. Tous jouent leur propre rôle.
Non, ça, c'est... Oui, en fait... Beaucoup de journalistes m'ont déjà demandé cette question. Je pense que c'est peut-être un petit problème de film parce qu'on mélange, en fait. C'est pas soit ça ou soit ça. C'est David, il joue lui-même, mais puis il y a des autres qui sont des acteurs et puis des autres qui
sont des acteurs amateurs aussi.
Ouais. Et qui sont, je sais pas, des amis de David. Et alors il n'y a pas un système dans ça.
Oui, parce que alors finalement, juste pour résumer, finalement l'histoire de David Tischer dans enfin le scénario inventé plus ou moins basé sur des événements réels de David Tischer, c'est qu'en fait il contacte en tant que donc jeune rom homosexuel qui cherche un partenaire par un site internet de rencontre. Il rentre en contact avec un jeune autre rom qui est également homosexuel et qui dit à ses parents, qui fait son coming out d'une certaine façon et qui dit à ses parents qu'il est gay. Évidemment, c'est la crise familiale, il se fait battre par ses parents, il est marié de force à une femme. Mais finalement, quand on voit les parties tournées, il y a des parties très rigolotes où finalement on voit les acteurs qui ont l'air d'être des acteurs plutôt amateurs qui rient devant la caméra. Enfin, on voit très bien que finalement c'est joué en fait. Hein.
Ouais. C'était en fait ça. Je savais que on doit bien voir le scénario. Du coup, j'ajoute le commentaire de David. En fait, dans le film, il raconte le scénario.
Oui, c'est le fil rouge. Hein.
C'est le fil rouge. On suivit en fait avec des scènes jouées. On suivit son scénario. Alors d'abord, il nous dit qu'est-ce que ça veut passer. Ensuite, on le voit.
Et c'est une forme très originale, finalement, qu'on voit pas très souvent. Est-ce que vous pensez que c'est difficile de faire passer justement ce genre de formes mélangées, parce que finalement les spectateurs sont souvent assez conservateurs, veulent voir un certain type de documentaire. Enfin, parfois on a un peu cette impression-là qu'on voit un peu le même type de documentaire. Celui-ci est particulièrement original.
Il faut dire que en fait, je me suis beaucoup inspirée par Jean Rouch, qui est un cinéaste français. Il est pas très très connu. On peut dire oui, il faisait partie de la nouvelle vague française, mais c'était pas vraiment lui le plus connu. Mais par exemple, son film Moi Noir, que j'aime beaucoup, fonctionne un peu dans la même façon. Il mélange le scénario de quelqu'un, la propre vie de quelqu'un, et il ajoute des scènes jouées.
C'est honnête finalement, parce que c'est vrai qu'on voit à l'heure actuelle beaucoup de documentaires, par exemple des documentaires historiques, qui essaient de faire rejouer les scènes historiques. On voit évidemment que c'est, oui, déjà on voit que c'est joué. Enfin, c'est pas très naturel finalement. Alors que le second degré dans votre film finalement est une forme d'honnêteté vis-à-vis du spectateur, quoi.
Oui. Peut-être c'est parce que j'ai étudié le département de film documentaire. On a toujours beaucoup discuté qu'est-ce que c'est en fait la forme de film documentaire. Qu'est-ce que c'est la différence entre la forme documentaire et la forme de la fiction. Quand on réalise que, par exemple, si on prend Flaherty, c'était le premier réalisateur considéré comme un réalisateur de film documentaire qui a tourné avec des Esquimaux. En fait, il a fait jouer des Esquimaux sa propre vie. Et ça, on voit ça comme le premier film documentaire. Et en fait, la forme, elle est elle-même tout à fait jouée.
Oui, où est la limite, finalement.
Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi on croit que cette forme-là, elle raconte la vérité? Pourquoi cette forme cinématique est plus vraie qu'une autre?
Évidemment, vous ne vous arrêtez pas à ce documentaire, vous en avez fait bien d'autres. Alors notamment un qui est assez particulier, on peut visionner sur le site de Chete Dva, donc la deuxième chaîne de la télévision tchèque. Il faut dire d'ailleurs que Roma Boys, on peut le visionner sur le site de Doc Alliance. C'est un film qui est consacré aux sculptures et aux plastiques de l'époque de la normalisation en Tchécoslovaquie, en fait, qui décorait, en tout cas qui meublait l'espace extérieur dans ces espèces de banlieues HLM, c'est pas vraiment le bon terme, c'est ce qu'on appelle siliché en tchèque, à l'époque communiste. Alors c'est un film qui s'appelle Vetchelce et Volavke, c'est des termes un peu particuliers qui veut dire intrus et errant. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire de quoi il s'agit exactement comme sculpture et de quoi il retourne dans ce documentaire?
On a découvert avec un ami de moi qui étudie l'école Umprum, l'école de design, l'école de
des arts et métiers.
On a découvert que en fait pendant cette époque qui on appelle la normalisation en tchèque, qui est par la génération de ma mère, comme l'époque de la stagnation, quand l'art de qualité était interdit et c'était pas possible de produire des choses intéressantes. On a découvert que dans l'architecture, il y avait la loi qu'il faut donner 5% de devis pour une nouvelle cité. Il faut donner toujours 5% pour l'art. Et ça fait beaucoup, en fait, parce que les devis, c'était des devis de l'État. Et ils étaient énormes. On a trouvé ça très intéressant. Et en plus, on a trouvé que dans les années 70-80, c'était déjà des artistes qui étaient à la fois interdits ou intéressants, qui ont même participé pendant le printemps de Prague, qui avaient de la chance de produire quelque chose pour ces HLM, pour ces cités.
Et oui, alors puis il faut dire que c'est des statues ou des sculptures finalement assez particulières aujourd'hui, parce qu'elles ont pas mal vieilli aussi. Ouais, on voit qu'elles sont pas forcément entretenues, donc elles ont une espèce de patine assez étrange qui s'est forgée au fil des années.
Oui, mais aussi il faut dire que vraiment il y a des œuvres d'art intéressantes de valeur qui on oublie parce que justement on considère cette époque comme quelque chose assez mal. On voit pas que pendant cette époque, je sais pas, le régime ou la société a produit quand même quelque chose assez intéressant pour nous. Mais c'est vrai que c'était obligatoire. C'est 5% comme, en fait, tous pendant le communisme, c'était obligatoire. Alors ça veut dire que c'était pas toujours des œuvres d'art. De temps en temps, c'était vraiment des choses fous ou assez étranges, juste pour produire quelque chose. Mais souvent, de temps en temps, c'était des bons artistes qui avaient de la chance.
Et puis des artistes finalement qui trouvaient là une forme, enfin simplement de financement, enfin de paye. Vous parliez du fait que finalement des artistes qui autrement étaient interdits pouvaient peut-être exercer leur art à ce moment-là, c'est ça?
C'est ça aussi. Mais toujours, vous voyez, c'est des années 70-80 en Tchécoslovaquie. C'est une époque assez compliquée. Je pense qu'on entend déjà, je sais pas, l'explication historique de cette époque. On ne sait pas encore parce que c'était vraiment pour la société, c'était quelque chose d'assez fou.
C'était schizophrénique.
Voilà. Alors pour ces artistes, c'était nécessaire toujours d'appeler cette œuvre d'art comme, je sais pas, le printemps ou quelque chose d'optimistique. Et puis, quand vous avez obtenu le projet, c'était n'importe quoi. Ça s'appelait printemps, mais ça avait la forme assez c'était une forme assez abstraite, je sais pas. Mais
du coup, la forme ne correspondait pas du tout au titre de l'œuvre finalement.
Et c'était une œuvre d'art pour la banlieue. Sa place n'était pas vraiment dans la banlieue.
C'est des formes d'ovni en fait. Finalement. D'où finalement le titre Les Intrus. D'une certaine façon, le titre de votre documentaire.
Voilà.
Anna Kubishta s'est entretenue dans Culture sans frontières avec Rosalie Kohoutova. Vous entendrez la seconde partie de leur entretien très prochainement sur Radio Prague. Notre programme se poursuit par le Tchèque du bout de la langue, une émission animée par Guillaume Narguet et consacrée aujourd'hui, même si c'est le week-end, au travail.
Le Tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand...
Le travail, c'est la santé, chantait Henri Salvador dans les années 60. Rien faire, c'est la conserver, précisait-il aussi cependant. Quoi qu'il en soit, il s'agit là pour nous d'une occasion de travailler un peu et de nous intéresser à quelques expressions de la langue tchèque dans lesquelles il est question de travail.
Práce.
Cela en est d'autant plus l'occasion que le mot
robot,
un des mots d'origine tchèque assurément parmi les plus célèbres dans le monde, a fêté, mardi dernier, le 90e anniversaire de son invention. Un mot qui a également un rapport avec le travail, puisque résumé très succinctement, le robot est un automate qui peut effectuer certaines tâches à la place de l'homme.
Práce je práce, práce je práce.
Hurle le groupe punk tchèque Ee dans la chanson intitulée
Práce.
Traduit en français, ce refrain nous donne quelque chose comme du travail, ouais, du travail, il y a du travail. Dans cette chanson, le groupe célèbre de manière ironique le fait qu'un jeune gars ait été embauché à l'usine du coin et qu'ainsi le rêve de son père s'est enfin réalisé. Une manière comme une autre de rappeler la dure réalité parfois de la vie quotidienne, surtout sans un emploi digne de ce nom. Pour se faciliter la vie, l'homme a donc inventé le robot. Avant cela, il y a toutefois d'abord eu l'invention du mot, et celle-ci remonte donc à 90 ans. Le 25 janvier 1921, au Théâtre National à Prague, était donnée en effet la première représentation de la célèbre pièce de Karel Čapek, R.U.R. C'est à cette occasion que le public a entendu pour la première fois ce nouveau mot de
« robot ».
Le mot possède une origine un peu particulière, car peu de monde fait la relation avec les mots
robit
et
robota,
qui auparavant signifiaient faire et corvée. Cela vaut pour le tchèque, mais également pour d'autres langues slaves, aujourd'hui encore, en slovaque ainsi par exemple,
robik
signifie travailler, faire quelque chose,
robota,
travail, tandis qu'en polonais,
robotnik
désigne un travailleur. Les robots sont donc des êtres, si on peut les désigner ainsi, dont la mission est de
robotovat,
comme on dira en tchèque, roboter en quelque sorte en français, c'est-à-dire travailler comme ceux qui étaient chargés de la
robota,
donc de la corvée d'un travail forcé. C'est la raison pour laquelle Čapek inventa donc le mot robot. Ensuite, disons simplement que comme les pièces de Čapek étaient très appréciées, le mot a franchi les frontières de la Tchécoslovaquie avec la pièce de théâtre s'internationalisant du même nom. Une fois tout cela précisé, passons aux expressions tchèques dans lesquelles il est question de travail. Une des plus connues est certainement celle selon laquelle
bez práce nejsou koláče.
Un jeu de mots pour indiquer littéralement que sans travail, il n'y a pas de gâteau, autrement dit que l'on ne peut pas espérer obtenir quelque chose, une récompense, des résultats, sans travail. Les Slovaques, eux, voient les choses un peu différemment, puisque selon une de leurs expressions, reprise également par les Tchèques,
práce není zajíc, neuteče.
C'est-à-dire que le travail n'est pas un lièvre, il ne va pas s'enfuir. Tout le contraire, en quelque sorte, de l'idée répandue selon laquelle il ne faut pas remettre à plus tard ce que l'on peut faire de suite. Tout le contraire également de l'expression tchèque, cette fois,
pracovat ostošest,
une expression difficilement traduisible qui littéralement signifie travailler à 106. Aucun linguiste tchèque ne connaît véritablement l'origine de cette expression à 106. On peut donc supposer qu'il s'agit de travailler ou de faire quelque chose à 106% ou peut-être même à 106 km/h. Ce que l'on sait et comprend bien, en revanche, c'est que cette expression signifie travailler ou faire quelque chose avec beaucoup d'intensité, beaucoup de conviction, très rapidement. En français, cela équivaut à peu près à dire que l'on met ou que l'on a du cœur à l'ouvrage, comme par exemple l'abeille que l'on retrouve dans une autre expression tchèque selon laquelle on peut travailler comme une abeille, soit travailler beaucoup ou plus précisément être laborieux comme une abeille.
Pilný jako včelička.
Enfin, terminons avec une dernière expression d'un sens très proche.
Pracovat svátek, nesvátek.
Là aussi, une formule difficilement traduisible en français mais qui signifie littéralement travailler, faites ou pas faites, c'est-à-dire beaucoup et souvent. Et puis, sachez encore également que les Tchèques disent aussi parfois qu'ils travaillent ou font quelque chose.
Od vidím do nevidím.
Soit littéralement de je vois à je ne vois pas. Cela signifie alors qu'ils commencent leur journée de travail avec le lever du soleil et qu'ils la terminent lorsque ce même soleil est déjà couché. Et c'est avec cette expression imagée que s'achève pour cette fois ce tchèque du bout de la langue, consacré donc au 90e anniversaire de l'invention du mot
robot
et à quelques expressions faisant référence au travail. En attendant de vous retrouver samedi prochain après une nouvelle semaine de travail, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Merci Guillaume pour ce tchèque du bout de la langue. En 2001 a été fondée l'Académie littéraire de Prague, une école pour les futurs écrivains mais aussi pour ceux qui considèrent la rédaction des textes comme une activité de premier plan et cherchent à se perfectionner. Václav Richter vous présentera dans sa rubrique littéraire les activités et les ambitions de cette école qui s'est imposée pendant les 10 années de son existence dans la vie culturelle tchèque.
Rencontre littéraire. Comment devient-on écrivain? Peut-on apprendre le métier d'écrivain dans un établissement spécial, dans un atelier, dans une école? En Europe et notamment en France, les réponses à ces questions ont été pendant longtemps négatives car on était convaincu que la création littéraire ne pouvait pas s'apprendre à l'école. Par contre, outre-Atlantique, on ne partageait pas cet avis et aux États-Unis, des ateliers d'écriture ont été créés pratiquement dans tous les départements de littérature des universités, ateliers qui sont souvent dirigés par des écrivains reconnus. Petit à petit, le phénomène s'est diffusé aussi en Europe. Il y a 10 ans, un établissement de ce genre a été créé également en République tchèque. En mai 2011, l'Académie littéraire de Prague, qui s'appelle aussi l'École supérieure Josef Škvorecký, a fêté son 10e anniversaire. C'est le nom du romancier, traducteur, pédagogue et éditeur Josef Škvorecký, un des meilleurs écrivains tchèques, que porte cette école bien particulière, dont l'existence a commencé il y a juste 10 ans. Le sort de Josef Škvorecký est d'ailleurs typique pour les intellectuels tchèques de la seconde moitié du XXe siècle. Dans les années 1960, l'écrivain a su garder une certaine liberté d'expression malgré la censure communiste. Après l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie en 1968, il s'est cependant rendu compte que la littérature libre ne serait plus possible dans le pays occupé et s'est exilé avec sa femme Zdena Salivarova au Canada. C'est à Toronto qu'il a poursuivi son œuvre, c'est là qu'il est devenu enseignant d'université et c'est dans cette ville qu'il a fondé la maison d'édition 68 Publishers pour pouvoir publier les œuvres des écrivains tchèques réduits au silence par le régime totalitaire. L'Académie littéraire de Prague, qui porte le nom de Josef Škvorecký, est une école privée et payante. En présentant son établissement, son recteur Martin Stoll rappelle que l'Académie se trouve actuellement au seuil d'une période de changement.
10 ans au soukromém vysokém školství znamená, že jsme vlastně jedna z nejstarších škol u nás.
Notre école existe depuis 10 ans et cela signifie que nous sommes une des écoles privées les plus anciennes de République tchèque. Je ne veux pas nous comparer aux universités d'État, mais dans le contexte des établissements privés, nous avons atteint une certaine longévité. Nous avons survécu à tous les changements. Évidemment, nous nous demandons quelle sera notre situation pendant les années marquées par le déclin démographique qui arrive maintenant. 10 ans d'existence, c'est non seulement une occasion de faire le bilan, mais aussi d'acheminer l'école vers l'avenir.
Actuellement, l'Académie propose aux étudiants 6 programmes d'études différents, dont l'atelier d'écriture générale, l'atelier de communication avec les médias, l'atelier de littérature documentaire et l'atelier de rédaction des textes. L'année dernière, un changement important est intervenu dans les activités de l'Académie, changement que Martin Stoll qualifie de passation entre générations. Martin Stoll a succédé au professeur Peter Tchernoy au poste de recteur. Sous la nouvelle direction, l'établissement se propose de se présenter avant tout comme une école artistique.
To možná nebylo v těch předchozích letech tak úplně jasné, byli jsme tak na pomezí humanistiky.
Ce n'était peut-être pas évident dans le passé, nous étions plutôt une école des sciences humaines avec des ambitions artistiques. Désormais, nous nous considérons clairement comme une école artistique et nous cherchons à transformer dans ce sens les disciplines enseignées pour mettre l'accent sur la pratique. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous ayons supprimé les leçons de théorie et les activités de recherche. Nous sommes toujours un établissement de recherche artistique.
Vědeckou činnost a podobně. Pochopitelně jsme pracoviště uměnovědné.
Et les changements se sont poursuivis aussi au cours de l'année 2011, lorsque la chef de la chaire d'écriture littéraire, Ivona Březinová, a décidé de quitter son poste et qu'il a fallu chercher une personnalité qui pourrait lui succéder. Martin Stoll retrace les riches activités d'Ivona Březinová qui resteront un chapitre important dans l'histoire de l'école.
Ivona Březinová udělala pro školu obřímný kus práce a celá řada knížek, které studují.
Ivona Březinová a fait pour notre école un travail de géant. C'est grâce à son travail de manager, à ses activités pour motiver les étudiants, à son énergie que toute une série de livres a été publiée par nos étudiants, non seulement chez nous, mais aussi dans d'autres maisons d'édition. Cependant, comme elle a décidé de réduire ses activités, nous avons été obligés de chercher son successeur.
V podstatě se rozhodla, že nějakým způsobem poleví ve svých aktivitách.
En République tchèque, il n'y a qu'une seule chaire d'écriture artistique. Selon Martin Stoll, les candidats pour le poste vacant ne manquaient pas. 11 candidats à ce poste, qui étaient tous des spécialistes de qualité, ont été en lice. La chaire d'écriture artistique a été finalement confiée au poète et traducteur Radek Mali, lauréat du prix littéraire Magnesia Litera, qui vit actuellement dans la ville d'Olomouc, mais envisage de s'installer à Prague. Martin Stoll se félicite de ce choix.
Vkládám do něj dost velké naděje, protože ten obor bude potřebovat.
J'ai accueilli ce résultat avec beaucoup d'espoir parce que nous avons besoin pour cette discipline non seulement d'un homme dynamique, mais surtout d'un homme capable de créer une conception, un homme qui serait au courant aussi des tendances dans les écoles de ce genre dans le monde. C'est donc un symbole de changement. Nous avons beaucoup de respect pour la génération sortante, mais nous nous rendons compte qu'il faut aller de l'avant. Et ma tâche est d'agir en sorte que ces efforts se poursuivent, qu'ils ne s'arrêtent pas.
Mým úkolem je, aby to dál šlo, aby se to nikdy nezastavilo.
L'Académie littéraire de Prague est ouverte à tous ceux qui désirent devenir écrivains, qui aimeraient travailler à la télévision, à la radio et dans les médias en général, qui souhaitent créer une maison d'édition. Ceux qui aiment les célébrités ont l'occasion de rencontrer parmi les enseignants quelques-uns des écrivains tchèques reconnus et lauréats de prix littéraires, dont Radka Denemarkova, Daniela Fischerova, Lucie Lomova, Peter Borkovec, Peter Chornej, David Jan Novotný, Julius Gajdoš et autres. Ils sont là pour conseiller les adeptes de la littérature. Ces écrivains en herbe peuvent apprendre la technique de l'écriture, mais l'école ne peut pas leur donner le talent et l'inspiration, les deux ingrédients absolument nécessaires de la vraie littérature. Quand il n'y a pas de talent et de passion pour l'écriture, même les meilleurs pédagogues sont impuissants. Le directeur de l'Académie littéraire Martin Stoll s'en rend compte.
Základním předpokladem tvorby je potřeba tvorby. Nemá-li někdo potřebu.
La condition fondamentale de la création artistique est le besoin de créer. Quand on n'a pas besoin de créer, la création n'a pas de sens. Et c'est le problème auquel se heurtent les pédagogues de n'importe quelle école artistique. Ce n'est que de ce besoin de s'exprimer, de ce désir d'évoquer tous les amours inaccomplis, etc., que sont nées les plus grandes œuvres.
Nenaplněných lásek a z té touhy se vyjádřit vznikla ta největší díla.
C'était les rencontres littéraires de Radio Prague présentées par Václav Richter. C'est aussi la fin de notre programme en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochova et Aleš Pezl. Demain, vous retrouverez Anna Kubešta dans le magazine musical du dimanche. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio-cz. Bonne fin de week-end, au revoir, nashledanou.
Radio Praga.